France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le président d'honneur de la Fondation Jacques Delors, ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Pascal Lamy.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. On va parler dans un instant de la charge violente de Nicolas Hulot contre le Mercosur et le CETA, contre l'attitude de la France en matière de commerce international. Mais d'abord, l'information ou la non-information de la nuit, toujours pas de fumée blanche à Bruxelles. Les 27 ne parviennent pas à trouver de compromis sur la nomination des postes clés de l'Union et il semble que ce soit dû à une profonde divergence entre la France et l'Allemagne, c'est en tout cas l'un des facteurs. Certains disent même que jamais le couple franco-allemand n'a été aussi désuni. Un dirigeant de la CDU a traité Emmanuel Macron d'anti-allemand il y a quelques jours. Est-ce que c'est grave ce qui se passe en ce moment ?
Je ne crois pas que ce soit grave. Je crois qu'il fallait s'y attendre. Nous vivons dans l'Union européenne dans un régime parlementaire, qui est un concept dont les Français ont été un peu décervelés depuis quelques décennies. On va aux élections, chacun sous son drapeau, et puis après, comme personne n'a la majorité, bah, il faut négocier des compromis. Bon. Et dans cette affaire, il y a deux chambres, le Sénat des États, qui est le Conseil, et la Chambre des représentants, qui est le Parlement européen. Il y a quatre partis européens qui, maintenant, vont devoir faire une coalition pour élire le président de la Commission, les chrétiens-démocrates, les sociaux-démocrates, les libéraux, les verts. Et il y a, en gros, cinq postes à pourvoir. Donc deux chambres, quatre partis, cinq postes à pourvoir, 28 États membres, enfin disons 27
Il faut ajouter la division franco-allemande en plus ou pas ?
Il se trouve que dans cette affaire, Monsieur Macron et Madame Merkel n'appartiennent pas au même parti.
Oui, mais ça c'est déjà arrivé par le passé, ils arrivaient à s'entendre plus facilement, il me semble,
c'est
non ?
C'est arrivé par
entre
le passé.
Entre Angela Merkel et François Hollande, même avec Nicolas Sarkozy, ça me semble... Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté plus grande cette fois-ci ? Est-ce que vous banalisez ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on dit sur le couple franco-allemand ?
Oui, je ne dis pas que le couple franco-allemand est au mieux de sa forme, c'est normal, notamment parce que la chancelière est en fin de cycle politique et que donc elle a beaucoup de mal à manœuvrer face à un président français qui lui est en milieu de mandat. Bon. Mais ce qui a changé fondamentalement, c'est que auparavant, pendant 40 ans, il suffisait que les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates se mettent d'accord et puis le tour était joué. Bon, c'est fini. Les électeurs européens ont décidé que ce duopole, en quelque sorte, ça suffisait et qu'il fallait, pour faire une majorité, à la fois des Verts et des libéraux, c'est forcément un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il faut encore une fois s'accoutumer à ce régime parlementaire.
C'est comme la canicule, ça prendra de plus en plus de temps, c'est ça.
Pour le président de la Commission européenne, ça devait être Frans Timmermans hier à 20h, ça n'est pas Frans Timmermans ce matin à 8h. Est-ce qu'il reste en lice à votre avis ou est-ce que...
Pourquoi est-ce que c'était peut-être Timmermans hier matin? Parce que Monsieur Macron et Madame Merkel s'étaient mis d'accord là-dessus. Pourquoi est-ce que ça ne l'était plus ce matin ? Parce que le parti de Madame Merkel, les chrétiens-démocrates, ont décidé de ne pas voter pour Monsieur Timmermans au Parlement européen. Ça ne se passe pas seulement au Sénat des États membres, ça se passe aussi au Parlement européen parce qu'il faut l'accord des deux chambres.
Donc c'est mort ou ça peut revenir ?
Ça peut revenir. Je crois que le seul dont il est probable qu'il ne sera pas président de la Commission, c'est Monsieur Weber, parce que au fond, il manque un peu d'expérience et que l'idée qu'il sera quelque part dans le bureau ovale en face de Monsieur Trump pour lui dire Monsieur le Président, ça va pas, ça colle pas sur le plan du profil.
Vous dites comme Nathalie Loiseau, c'est un ectoplasme, Manfred Weber.
Je commets moins d'excès de langage que Madame Loiseau en général, mais je suis aussi beaucoup plus vieux. Donc
vous avez toute votre vie, précisément, Pascal Lamy, et c'est aussi pour cette expérience qu'on vous a invité ce matin, toute votre vie défendu l'ouverture des échanges économiques et commerciaux dans le monde, et les règles qui les accompagnent et les rendent possibles. Deux questions majeures, deux traités majeurs ont fait la une ce week-end. D'abord, et en commençant par là, l'accord de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Il a été signé vendredi après des années de négociations. Macron. Il prévoit la création donc d'un gigantesque marché de 780 millions de consommateurs et la baisse drastique des tarifs douaniers. C'est un moment historique, selon le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Est-ce que vous partagez son enthousiasme ?
Disons que c'est un accord d'ouverture important avec des règles qui sont fortes. Mais je crois qu'il faut le placer dans un contexte géopolitique qui est le contexte actuel et dont on a vu les protagonistes la semaine dernière au G20 à Tokyo. D'un côté, vous avez Trump, qui considère qu'il faut revenir au rapport de force dans les relations internationales, parce que c'est ça qui est bon pour les États-Unis, parce qu'ils sont forts, donc la loi de la jungle. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres pays, dont les Européens, qui eux restent attachés à l'idée d'une gouvernance multilatérale, à la règle de droit, à la coopération. Et cette bagarre qui s'est déroulée la semaine dernière à Tokyo a eu pour résultat 19 contre 1. Et une des raisons pour lesquelles c'était 19 contre 1, c'est que le Brésil et l'Argentine, qui sont membres du G20, sont restés dans le camp anti-Trump. Et une des raisons pour lesquelles ils sont restés dans le camp anti-Trump, et ils ne sont pas anti-Trump surtout, c'était la perspective de cet accord avec les Européens.
Donc vous dites c'est de la réelle politique. On a réussi à garder Jair Bolsonaro, le Brésilien, dans le camp des anti-Trump. Et c'est suffisant pour se réjouir de l'accord du Mercosur. Si je fais de l'explication de texte un peu prosaïque.
C'est bien vu. Dans un domaine extrêmement important pour la suite, et on l'a vu d'ailleurs aux élections européennes, qui est le problème de l'environnement et du climat. Mais
c'est ce que j'allais vous dire, parce que quand on lit et écoute Nicolas Hulot ou Les Verts tout ce week-end, et encore ce matin dans Le Monde, Nicolas Hulot extrêmement violent, je ne vois pas comment on peut, sur un enjeu universel, signer un accord avec un pays qui bafoue à ce point nos objectifs, le Brésil. Cela prouve qu'on n'a pas pris la mesure des choses et surtout qu'on est loin d'être dans la cohérence. Comment peut-on signer un accord avec des conservateurs criminels contre l'humanité, comme ils parlent de Trump et de Bolsonaro ? Ça, c'est toujours Nicolas Hulot. Yannick Jadot, honte à la Commission européenne de pactiser avec Jair Bolsonaro qui s'en prend aux démocrates, aux LGBT, aux femmes, à l'Amazonie. Pascal Durand, qui est pourtant dans la ligne d'Emmanuel Macron, qui est député La République En Marche. Jour funeste pour l'Union européenne, le climat et notre alimentation. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ?
Je réponds que si l'Union européenne n'avait pas la puissance qu'elle a en matière commerciale, qui est d'ailleurs une des rares puissances qu'elle a au plan international, il est probable que Bolsonaro aurait basculé dans le camp de Trump sur le climat.
Et il n'y est pas déjà ?
Non, absolument pas. Cet accord, et j'espère que M. Hulot, on a lu les dispositions de près, cet accord comporte un chapitre environnemental spécifique qui arrime le Brésil dans l'accord de Paris, qui arrime les engagements que le Brésil a pris au moment de l'accord de Paris avec un autre président et qui empêche maintenant le Brésil de sortir de l'accord de Paris. À mon avis, c'est un prix qui est assez remarquable.
Va empêcher Bolsonaro de déforester l'Amazonie, sérieusement ?
Cet accord va empêcher M. Bolsonaro de déforester l'Amazonie. Il comprend des dispositions très précises, y compris des dispositions de surveillance par la société civile européenne et brésilienne de ces questions de déforestation, qui sont évidemment un problème très grave. Mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut garder le Brésil et l'Argentine dans l'accord de Paris, dans le combat pour le climat, alors que M. Trump a fait tout ce qu'il pouvait la semaine dernière à Tokyo pour les amener de son côté, pour une fois, c'est l'Union européenne qui pèse dans le bon sens. Et je trouve qu'il faut accepter de regarder les choses sous cet angle-là aussi.
Pascal Lamy, il y a les écologistes, Léa en parlait à l'instant, il y a aussi les agriculteurs. Christiane Lambert, FNSEA, inacceptable signature, le Mercosur, qui va exposer les agriculteurs européens à une concurrence déloyale et les consommateurs à une tromperie totale. Elle précise que 74% des produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture brésilienne sont interdits en Europe. La boîte de Pandore est ouverte, ça ce sont les syndicats agricoles européens. Ils ont tort, tous, collectivement, de dire ça ?
Sur ces questions de contrôle sanitaire et phytosanitaire, je vous rappelle que ne rentrent sur le marché européen que des produits agricoles, bruts ou transformés, qui correspondent aux normes et aux standards sanitaires et phytosanitaires européens. Dès lors qu'effectivement, il y a la capacité de contrôle. Mais ces accords n'autorisent absolument pas des exportations européennes qui ne seraient pas aux normes européennes. Alors c'est vrai qu'il y a une sensibilité, notamment en France et en Irlande, sur les questions de bœuf. C'est vrai qu'il y a un contingent, c'est-à-dire une quantité limitée de bœuf supplémentaire qui va rentrer sur le marché européen. Et je connais cette quantité parce que ça fait 20 ans qu'on négocie cet accord. Et moi, j'étais négociateur européen là, en 1994, 15, quand on l'a lancé, cet accord. Hein. Et à l'époque, d'ailleurs, moi, j'étais prêt à accepter 40 000 tonnes de plus que ce qu'il y a dans l'accord d'aujourd'hui, ce qui prouve qu'on a bien fait d'attendre un peu. Et la raison pour laquelle les Européens acceptent, c'est que maintenant, les Européens sont beaucoup plus compétitifs qu'avant en matière de viande bovine. La preuve, d'ailleurs, c'est que les Européens exportent davantage de bœuf qu'ils ne l'importent.
Pascal Lamy, à vous entendre, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Nicolas Hulot a peut-être mal lu l'accord. Bon, les syndicalistes agricoles, eux aussi. Les gens font semblant de mal lire les choses, ou alors peut-être que vous avez tort. Est-ce que ça, vous pouvez l'envisager ou pas?
Évidemment que je peux l'envisager. Et d'ailleurs, il y aura des débats sur cet accord et au Parlement européen et dans les parlements nationaux, comme c'est normal dans une démocratie. J'essaie simplement, je comprends parfaitement ces sensibilités, et si j'étais à leur place, je dirais probablement la même chose.
Mais c'est de la sensibilité ou des arguments, c'est ça que je voudrais savoir.
Ce sont des arguments quand on a une sensibilité, mais il y a des réponses à cela. Pensez bien que les négociateurs européens sont pas rentrés tête baissée dans un truc qui allait continuer à cochonner la forêt amazonienne. Faut pas non plus les prendre pour des gens complètement azimutés.
Mais on essaye de sortir des caricatures, en fait. C'est pour ça qu'on vous invite ce matin.
Nous sommes là pour ça, absolument.
Que, si vous voulez, la philosophie qui défend le libre-échange, ou vous préférez dire l'ouverture du monde aux échanges, parce que le libre-échange, c'est un mot qui est de plus en plus mauvaise réputation, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce matin comment concilier, au fond, c'est la question de fond, comment concilier le libre-échange, l'ouverture, si vous voulez,
et les règles,
et l'écologie. Comment on y arrive? Quand Nicolas Hulot, on le recite encore, le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de la crise que nous vivons. Bon, il a tort sur ça.
Je ne suis pas d'accord avec Nicolas Hulot sur ce point. L'ouverture des échanges produit des bénéfices dans certains cas et des dégâts dans l'autre. Ça dépend de la manière dont on la régule. Et ça n'est pas l'ouverture des échanges qui est responsable de la crise écologique. C'est le capitalisme de marché, qui est un système désormais globalisé. C'est le modèle de développement que nous avons et qu'il faut changer. Et d'ailleurs, l'Institut Jacques Delors va publier dans les semaines qui viennent une note, un papier sur comment verdir la politique commerciale de l'Union. Nous avons pas mal d'idées sur cette question. Ça n'est pas l'un ou l'autre. On peut intégrer des préoccupations environnementales, des préoccupations sociales, des préoccupations de santé publique dans des accords commerciaux. C'est ce que les accords de nouvelle génération, comme celui qu'on a...
Mais faire venir du bœuf d'Amérique latine, est-ce que ça n'est pas, pour être poli, contre-intuitif au minimum?
Quand l'Europe exporte plus de bœuf qu'elle n'en importe, ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'elle a retrouvé de la compétitivité dans cette matière, c'est pas du tout absurde, puisque eux le demandent, et que nous, par ailleurs, on va avoir accès à ce marché de 250 millions d'habitants, qui aujourd'hui est encore très fermé, notamment en matière industrielle, sur les voitures, sur les produits chimiques, sur les produits pharmaceutiques, et donc on va avoir un avantage. Je rappelle que, en gros, la croissance européenne interne, des 10-15 années à venir, c'est 1,5% par an, alors que ces pays-là font du 4, 5, 6%. Donc ce sont des marchés plus dynamiques que les nôtres. Nous avons, nous Français, des excédents sur cette zone. Je pense que si elle s'ouvre davantage, mais 1 milliard d'exportations européennes en plus, c'est 14 000 emplois en Europe.
Mais là, la question se pose aux citoyens, parce qu'elle l'a mis pas à l'ancien patron de l'OMC. Vous avez l'ouverture des échanges aux échanges, l'ouverture du monde, c'est la grande idéologie qui a dominé les années 90 et une partie des années 2000. Elle est vraiment battue en brèche aujourd'hui. Est-ce que le citoyen, parce qu'elle l'a mis, se remet en cause parfois? Est-ce qu'il dit on a allé trop loin, on a raté des choses? Est-ce qu'il accepte de voir que le monde qu'il défendait dans les années 90 est peut-être en train de s'effondrer?
Qu'est-ce qui est contre l'ouverture des échanges aujourd'hui dans le monde?
Les populistes, mais aussi les écologistes.
Monsieur Trump et qui est en train d'essayer de mettre le bazar. Et ça, je trouve que ça ne va pas. Il faut que les Européens continuent à se battre pour un monde qui est géré, organisé, de manière coopérative. Et les rapports de force, ça n'est pas l'image que j'ai de mon intérêt en tant que citoyen dans la paix de ce monde. Et l'Union européenne est un des pôles dans ce monde. Pas sûr que la Chine le soit toujours. J'ai quelques doutes sur la Russie. Il y a beaucoup de pays d'Asie ou d'Afrique qui nous suivent là-dessus. Un des pôles qui consiste à dire à M. Trump, non, nous ne voulons pas revenir à la loi de la jungle.
Ça n'a pas l'air de l'empêcher de dormir, ouais. Vous me passez l'expression.
Non, ce qui l'empêche, ça n'a pas l'air d'empêcher de dormir. À Tokyo, il s'est quand même retrouvé isolé, tout seul. Il y avait 20 pays autour de la table. Il a essayé de faire basculer la majorité pour que les pays sortent de l'accord de Paris sur le climat. Il s'est retrouvé tout seul dans son coin. C'est pas rien sur le plan international.
Il n'y a pas que les populistes, c'est ce que je vous disais au début. Les écologistes, de manière générale, aussi remettent en cause cette vision du monde. Mais
les écologistes, à juste titre, les écologistes considèrent qu'il faut changer le modèle de développement dans lequel nous sommes. Est-ce que l'ouverture des échanges est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la lutte contre le climat? Ça dépend. Lorsque l'Arabie Saoudite a décidé d'arrêter de produire des céréales parce que ça lui coûtait trop cher en eau, elle a eu bien raison, et elle a pu le faire parce qu'elle se fournit en général sur un marché mondial parce que l'échange de céréales est ouvert. Il y a des tas de domaines dans lesquels des pays qui font mieux que d'autres, supposons par exemple, ce qui n'arrivera hélas pas de sitôt, que le prix du carbone monte là où il devrait être, c'est-à-dire à quelque chose de l'ordre de 100 ou 120 euros la tonne, alors, la globalisation se transformera. Mais ce sont ceux qui produisent le mieux avec le carbone à 100 ou 120 qui auront des avantages. Et ça, tant mieux. L'ouverture des échanges permet une distribution des avantages, notamment quand les prix relatifs bougent. Mais enfin, disons, ne rentrons pas trop dans la technique.
Allez.
C'est le modèle économique
qui est en cause.
Et il faut le changer. Et là-dessus, je pense que l'Union européenne reste dans le monde le leader en matière de lutte contre le changement climatique.
On file au standard, Pascal Lamy, s'il vous plaît, et si vous le voulez bien, parce que Viviane est en ligne depuis trop longtemps. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes agricultrice, on vous écoute, Viviane.
Oui, je suis agricultrice éleveuse de bovins. On est en train de subir en ce moment une grosse crise au niveau des veaux, des vaches. Tous les frigos de France sont pleins d'animaux, alors qui rentrent de l'Europe, qui sont produits en France. Et là, on va nous donner encore de la concurrence avec le Mercosur. Et je trouve Monsieur Lamy très naïf dans son discours, croyant que Monsieur Bolsonaro et ses potes là vont être comptables de leurs actes et de leurs signatures. Donc moi j'en ai un peu assez de ce discours et j'aimerais qu'il y ait des actes un peu plus protectionnistes.
Merci Viviane pour cette question. Pascal Lamy, je voudrais un peu plus de protectionnisme, vient de dire Viviane.
Je comprends très bien son point de vue. Il se trouve que la consommation de viande baisse. Bon. Et donc, il va falloir petit à petit que les producteurs de viande s'accoutument au fait que la consommation de viande baisse, pour des raisons d'ailleurs, qui sont souvent portées par les écologistes. Et donc, il faut aussi être un peu cohérent sur l'ensemble. En l'occurrence, l'Union européenne est compétitive en matière de production bovine. La preuve, c'est qu'elle exporte plus de bœuf aujourd'hui qu'elle n'en importe. Alors, je ne dis pas du tout que c'est vrai pour tout le monde et partout dans l'Union européenne, mais dans l'ensemble, et il faut regarder ça au niveau de l'Union, l'échange qui est là va par exemple profiter aux producteurs européens de produits laitiers, à tous les producteurs européens de fromage, y compris les Français. On obtient dans cet accord la protection d'un certain nombre d'indications d'origine, comme par exemple le champagne. Alors ça n'est peut-être pas un gros avantage pour vous qui produisez des produits bovins, mais dans l'ensemble, l'agriculture européenne va s'y retrouver.
On repart au standard où nous attend Kéyan. Bienvenue, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'avais une remarque pour votre invité. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui est plus du tout en phase avec son époque et qui a pas du tout entendu ce pourquoi les gens ont voté. Donc moi j'ai voté vert et en fait je voudrais qu'on passe à une autre économie, à une autre approche du commerce et de vision du monde. Et vous venez en nous disant on a un nouvel accord qui nous permet d'accéder à 250 millions de personnes. Oui, on y a mis une part écologique, on y a mis des clauses qu'on vous a écoutées. Mais finalement, ce nouvel accord avec 250 millions de personnes à l'autre bout du monde à qui on peut vendre de la viande, du fromage et tout ça, finalement, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Et vous n'avez pas forcément entendu ce que les gens vous ont dit. L'urgence écologique aujourd'hui nous dit qu'il faut voir l'économie différemment et qu'il ne faut pas particulièrement s'intéresser uniquement à se dire est-ce qu'on peut réussir à aller vendre notre bout de fromage à l'autre bout du monde en l'ayant mis dans un bateau, en ayant pollué de cette manière, et plutôt est-ce qu'on peut faire fonctionner l'économie circulaire ou une autre approche, une approche différente qui a un sens, alors que ce que vous proposez, certes, c'est un petit peu modifié, ça écoute un petit peu le « ah oui, effectivement, il va peut-être falloir qu'on pense à l'écologie », mais finalement, c'est toujours la même chose.
Merci Kayane pour cette intervention. Pascal Lamy vous répond.
L'urgence écologique aujourd'hui, c'est de garder dans l'accord de Paris, dans l'accord sur le changement climatique, dans la réduction des émissions de carbone, les pays qui l'ont signé à Paris il y a quelques années. Il y en a un gros dans le jeu qui est sorti, qui s'appelle les États-Unis, parce que M. Trump ne croit pas au réchauffement climatique. C'est une erreur. L'Europe se bat contre cette conception. M. Trump a essayé de décrocher de l'accord de Paris tout un tas de pays. L'Europe fait le contraire. Et dans cette bagarre, nous avons gagné et préservé le Brésil et l'Argentine, et évidemment, ce sont des gros joueurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer le modèle de développement dans lequel nous sommes. Je le dis depuis longtemps. Jacques Delors l'a dit déjà dans les années 80. C'est un peu plus compliqué de le faire que de le dire. Mais l'urgence écologique, c'est le combat de l'Union européenne là où elle pèse sur la scène internationale. Et donc, il faut accepter de voir les choses sous cet angle aussi.
L'autre accord qui suscite la polémique au-delà du Mercosur, c'est le CETA avec le Canada, cet accord de libre-échange dont la ratification arrive le 9 juillet prochain à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut ratifier le CETA ?
Je pense qu'il y a dans le CETA, qui est d'ailleurs un accord avec un pays qui est beaucoup plus comparable à l'Europe, comme d'ailleurs c'est le cas avec le Japon, que le Brésil ou l'Argentine, il y a dans le CETA, qui est un accord modeste hein, sur le plan du poids économique, il y a suffisamment de clauses de précaution pour ratifier cet accord. C'est en tout cas ce que je pense.
Le Canada est l'un des pires élèves du G20, dit Nicolas Hulot, excusez-moi de le citer encore. Signer le CETA, ça vous fait rire, Pascal Lamy.
Signer le CETA,
c'était le conforter, le Canada, alors que ne pas le signer, c'était l'encourager à faire autrement.
Non, mais il faut voir. Tout ceci fait comme si nous étions dans un monde de bisounours dans lequel M. Trump n'essayait pas de mettre le bazar. Il y a une bagarre en cours dans laquelle nous devons prendre position.
C'est-à-dire, vous dites à Hulot, n'oubliez pas Trump, c'est ça, dans ce que vous dites. C'est ça le fond de ce que vous dites ce matin.
Absolument. Et nous devons donner des signaux, y compris aux acteurs américains, aux États américains, à la Californie par exemple, pour dire dans le monde, il y a des gens qui ne pensent pas comme M. Trump. Alors c'est son droit entier de pas croire au changement climatique. Et d'ailleurs, il a des électeurs derrière lui aux États-Unis. Mais si vous voulez, c'est une question qui est pas une question américaine, ça, c'est une question pour le monde entier. Et donc, il faut accepter cette bagarre. Et je crois qu'en l'occurrence, c'est ce que l'Europe a fait. Et encore une fois, elle ne pèse pas dans beaucoup d'endroits de la vie internationale, parce qu'en matière de défense et de sécurité, on n'est pas très intégré, pas très unis. En matière de commerce, on l'est. C'est notre levier d'action. Et dans le cas du Brésil et de l'Argentine, je trouve que les garder dans notre camp, c'est une bonne chose à faire.
Donc restons réalistes.
Parce que les relations internationales sont aussi, c'est aussi ça.
Merci Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC.
Ancien commissaire européen, qui a négocié à l'époque avec l'Argentine et le Brésil.
Vous avez un casier, comme on dit.
Absolument.
Mais c'est pour ça qu'on vous a invité.
Je n'étais pas arrivé, donc ça prouve qu'on peut faire mieux.
Allez, merci. Dans le quart d'heure qui vient, Claude Askolovitch pour la revue.